Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur Fréquence Mistral et bienvenue également à Dominique pour ce nouveau numéro de Voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe.
Alors au programme aujourd'hui, d'abord trois fables qui s'adressent aux enfants, mais bon, pas seulement. Et ces enfants, les enfants dont tu vas parler, ou l'enfant dont tu vas parler, doit passer le cap des 7 ans, un passage difficile.
Ah ben, passage, vraiment, on lui a répété que arrivé à 7 ans, il arrivait dans l'âge de raison. Hein, donc il devient grand. Alors pour lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre la nuit où j'ai encore 6 ans et celle où je vais devenir grand, c'est-à-dire vraiment 7 ans. C'est une ligne fictive, magique. Donc entre ce que lui va s'imaginer la veille, la nuit où ça va gamberger, il va se dire, qu'est-ce que demain me réserve, et puis la réalité des choses, le lendemain quand il va se réveiller avec son véritable anniversaire. Entre le rêve, la réalité et tout cela, on va voir qu'il y a des expériences à travers trois histoires d'enfants qui sont complètement ahurissantes.
Et peut-être que ça va nous rappeler des souvenirs.
Oui, je pense aussi quelque part. Tout à fait. Alors la première, la voici. Je suis grand maintenant, se dit Nino. Oh, je ne crois plus aux fantômes. Et il ouvre la trappe du grenier. Parmi les vieux habits, les outils rouillés, les meubles cassés, il découvre une grande malle sur laquelle est inscrit « Ne pas ouvrir ». Nino hésite un instant, se dit « Oh, personne ne le saura !» Et il ouvre la malle. À l'intérieur, une valise porte l'inscription « Surtout ne pas ouvrir !» Nino hésite un instant, se dit « Personne ne le saura !» Et il ouvre la valise. Il trouve alors une boîte sur laquelle est écrit « Surtout, surtout ne pas ouvrir !» Nino hésite un instant, se dit « Personne ne le saura !» Et il ouvre la boîte. À l'intérieur, il trouve des jeux de cartes, et plus précisément, des jeux de 7 familles. Les 7 familles des nains joufflus, les 7 familles des cuillères tordues, les 7 familles des patates crues. Et parmi les différents jeux, Nino, comme il est très courageux, choisit de découvrir d'abord les 7 familles des cauchemars. Il passe en revue la famille des vampires, la famille des ogres, la famille des fantômes. Mais quelque chose lui paraît étrange. D'habitude, dans le jeu des 7 familles, une famille est composée d'un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, un fils et une fille. Mais chez les sorcières, ils ne trouvent que des femmes, ni père, ni fils, ni grand-père. Et chez les revenants, il y a 8 grands-pères et 5 grand-mères. Il essaie alors un autre jeu, les 7 familles à manger. Et là aussi, les familles sont inhabituelles. Il n'y a que 2 personnes dans la famille cuisse de poulet et au moins 50 dans la famille petit pois. Tout à coup, son cœur bat plus fort. Il vient de découvrir la fille de la famille chocolat. Oh, elle est si belle avec ses yeux chocolat, sa peau chocolat, ses cheveux chocolat, que Nino s'écrie oh, « Si seulement j'avais une amie comme elle avec qui jouer !» À peine avait-il achevé cette phrase que la carte commence à s'agiter dans sa main. Le grenier s'illumine de 7 couleurs de l'arc-en-ciel et, soudain, la fille chocolat apparaît devant lui, mignonne à croquer. « Bonjour, je m'appelle Chocolina. Et moi, Nino, j'habite dans cette maison avec ma maman. « Merci de nous avoir sortis de là, dit Chocolina. Nous commencions à sentir le moisi. « Mais pourquoi êtes-vous enfermée là-dedans ? Demande Nino. « Oh, nous avons été exclus par les fabricants des jeux de cette famille. » Car nous ne sommes pas des familles comme ils veulent, explique Chocolina. Ils ne prennent que celles qui ont 2 grands-parents, 2 parents et 2 enfants. Mais jouons tous les 2, propose Nino. Les 2 enfants distribuent les cartes. Ils s'en donnent au moins 30 chacun. Nous allons jouer au jeu des 77 familles. Pour commencer, dit Nino, dans la famille pirate, je voudrais le père. Tiens, dit Chocolina en lui tendant la carte. Elle la tient au bout de ses doigts, car le pirate essaie de lui donner des coups de pied avec sa jambe de bois. « Merci, dit Nino. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un père pirate. Maintenant, dans la famille des grands méchants loups, je voudrais le fils. Ça peut servir un frère costaud. Je l'ai. »« Ben non, en fait, je l'ai pas. Alors pioche, répondit Chocolina. « Mauvaise pioche, annonce Nino. Alors à ton tour. » La carte que Nino vient de piocher s'agite alors dans sa main. « Comment ça, mauvaise pioche ? Me piocher, moi, grand-mère sorcière ? Mais c'est la meilleure des pioches qui soit. Attention, jeune homme, un peu de respect. Toi aussi, tu seras grand-père un jour.
Fais attention, lui explique Chocolina. Les sorcières sont très susceptibles. Et surtout, ne la range pas à côté d'une autre grand-mère sorcière. Elle ne se supporte pas.
Tu as raison. Je vais la ranger ailleurs, répond Nino, tandis que les cartes s'agitent et se disputent dans sa main.
Oh, ça va être plus difficile que prévu de me fabriquer une famille, si tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde.
Tu as besoin d'une famille ? Demande Chocolina.
Oh, j'ai une solution plus simple à te proposer. Prends ces cartes blanches et invente la famille que tu veux.
Oh, mais attention, tu l'auras pour de vrai. Alors réfléchis bien. Tu veux vraiment un père pirate et un frère méchant loup, toi ?
Mais ils sont pas très tendres, tu sais.
Nino réfléchit. Qui aimerait-il avoir dans sa famille ?
Oh, maman, mais bien sûr. Oh, et puis mon oncle préféré, ma grande cousine, mon petit cousin. Et puis là, la vieille voisine qui est si drôle et si gentille. Oh, elle serait une grand-mère adorable. Et la boulangère qui me donne des bonbons. Oh, je la voudrais bien aussi dans ma famille. Et la fille de la boulangère qui mange les bonbons avec moi en regardant les nuages. Oh, c'est déjà un peu comme si elle était ma sœur. Et le vieux pêcheur qui m'apprend à faire des ricochets et me raconte sa vie quand il était enfant, lui aussi. Oh, je voudrais bien le piocher. Et les tziganes qui jouent du violon et dansent avec moi. Oh oui, je les prends tous dans ma famille. Et je vais l'appeler la famille des plus beaux moments.
Nino ouvre les yeux. Il est dans son lit.
Oh ! A-t-il rêvé tout ce qui vient d'arriver ?
Il s'approche de la fenêtre et voit un magnifique arc-en-ciel. Alors il a une pensée pour son amie Chocolina. Tout à coup, son visage s'illumine.
Oh ! Mais c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui !
Il descend rapidement l'escalier pour aller embrasser sa mère. Et lorsqu'il arrive en bas, il voit son oncle préféré, sa grande cousine, son petit cousin, la vieille voisine, la boulangère, la fille de la boulangère, le vieux pêcheur et ses amis de Zigane qui lui souhaitent tous un joyeux anniversaire et se mettent à chanter pour lui au rythme des violons. Sur la table, son petit déjeuner l'attend. Une immense tartine avec 7 bougies dessus. Et comme tout le monde y a l'embrassé, il se dit « Oh, c'est vraiment le plus bel anniversaire !» Et surtout, j'ai la meilleure des familles.
Alors maintenant, Dominique, on va voir si les filles passent de la même manière, vivent de la même manière ce passage à l'âge de raison.
Eh bien, on va voir, effectivement, cette fois, c'est une petite fille qui est concernée.
7 ans, mais c'est fou, ça perd l'hypopète. Demain, c'est la fête, j'ai l'âge de raison.
Oh, rien que d'y penser, les yeux de Marion, ronds comme des ballons, se remplissent d'étoiles qui brillent dans la nuit. Elle se retourne dans son lit, mais comment s'endormir tranquillement avec un si grand événement ? Depuis tant d'années qu'elle en entend parler, de cet anniversaire spectaculaire. Cette histoire d'âge de raison plonge toujours Marion dans de vastes réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, avoir l'âge de raison ? Est-ce une chance inespérée ou un cadeau empoisonné ? Voilà l'inconvénient d'être l'aînée. Aucun moyen de vérifier les dégâts que cet âge-là aurait pu faire sur une grande sœur ou un grand frère. La question, c'est ce qu'il va me faire ce fameux anniversaire. Est-ce que je vais me transformer en une seule journée ? Qui sait ? Si ça se trouve, je vais devenir raisonnable, me tenir bien à table, rester sage tout le temps, parler comme les grands, avaler des livres sérieux et m'abonner à des journaux ennuyeux. Je vais aller à l'opéra comme bonne maman et bon papa, écouter le ministre de l'Éducation parler à la télévision. Et si je me mettais même à aimer les vaccins ? Les médecins disent qu'ils ne me font rien. Il assure qu'une personne raisonnable et mûre ne sent même pas la piqûre. Et voilà Marion partie dans un tableau peu rigolo de ce qui l'attend au tournant. Quand elle aura soufflé ses 7 bougies, elle entrera dans une nouvelle vie. D'un coup de baguette magique, elle se mettra à discuter politique et musique classique avec son papa enchanté et sa maman époustouflée. Fini les rondes et les chansons, les poupées et les oursons, les roux doudous et les caramels mous. Adieu la corde à sauter et les marelles, Marion y excelle et atteint le ciel avec ses copines Marine, Blandine et Isabelle. Fini les jeux et cervelés dans la petite cour de la récré, Marion restera sagement avec les vieux frileux du CM2 qui n'aiment plus sauter dans les flaques d'eau et se mettre sous le préau, bien à l'abri de la pluie, comme les poules mouillées transies. Ces grands l'ont beaucoup fait rire, mais le pire, c'est qu'elle va peut-être devenir aussi bête.
« Oh non, pitié !» gémit Marion en bâillant. « Ce ne serait pas amusant. Dans ce cas, merci bien, je préfère rester sur mes 6 ans. »
Heureusement, Marion a beaucoup d'imagination.
Pour oublier ce tableau noir, elle se lance aussitôt dans une autre histoire. Ses rêves de malheur, où elle deviendrait sage à faire peur, sont tristes et vraiment peu réalistes. En réfléchissant à fond, il y a bien une meilleure façon d'envisager l'âge de raison. Mais oui, cette fois, c'est la bonne version. Marion en est convaincue. Demain matin, c'est certain, elle se réveillera dans un monde où elle pourra enfin faire la loi comme un roi. Les gens s'inclineront respectueusement en murmurant. La vérité sort de la bouche des enfants. Cette jolie phrase est un proverbe en or avec lequel Marion a toujours été d'accord. Papa, j'ai bien réfléchi, dira-t-elle d'abord en sautant du lit. Il faut installer, sans perdre de temps, un écran de télévision géant sur le mur du salon. Dans cette maison, on manque d'un cinéma, tu ne trouves pas?
Mais si, ma chérie, tu as raison.
C'est une idée de génie. Voilà l'avantage d'avoir l'idée des idées sages. Heureusement que tu es là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Bon anniversaire, Marion. Puis Marion continuera sa mission d'imposer la raison à toute la maison. Maman, ce soir, pas de soupe au potiron. Ce n'est vraiment pas bon. Et surtout pas de poisson. Ne me parle pas de petits pois, c'est désastreux pour l'estomac. Plutôt des pâtes au jambon et de la crème de marron. C'est meilleur pour la digestion, surtout si on commence par une salade de bonbons.
Évidemment, Marion, tu as parfaitement raison. Maintenant, c'est décidé. Tu me diras chaque fois ce que tu veux pour le dîner. C'est toi qui sais le mieux ce qui est bon pour la santé.
Quel soulagement pour une maman d'avoir une grande fille de 7 ans. Quant aux petits frères qui ne savent rien faire, le plus intelligent que de se disputer à longueur de temps, ils vont enfin trouver à qui parler. Du haut de son autorité, Marion pourra les calmer sans même avoir à crier. « Assez, Timothée ! Colin, ça suffit comme ça » dira-t-elle tout bas en les regardant dans le blanc des yeux. « Vous n'êtes pas sérieux. Arrêtez de vous titiller et de pleurnicher. Allez jouer chacun dans votre côté. » Et les deux garçons fileront devant Marion comme deux petits moutons devant un lion. Reste la maîtresse. Comment être sûre que Madame Citron se rendra bien compte de la situation? Va-t-elle comprendre que la grande Marion a l'âge de raison? A-t-elle vraiment le don d'observation?
Mais oui, quelle question! Marion vérifiera sa réaction au prochain contrôle d'addition.
1 et 1 font 3, 2 et 2 font 6, écrira Marion sans hésitation. 10 sur 10, et bravo Marion pour ces additions, inscrira la maîtresse au crayon. Tes calculs sont bons, tu as vraiment l'âge de raison. Toutes mes félicitations. Tu n'as plus besoin de leçons. Tu peux rentrer à la maison.
Mais soudain, la porte s'ouvre doucement. Maman vient voir si tout va bien et lui faire un petit câlin. Alors, Marion pose enfin la question qui la tracasse. Maman, qu'est-ce qui se passe quand on atteint l'âge de raison?
Maman sourit.
Mais ne t'inquiète pas, ma Marion, on ne change pas du jour au lendemain.
Mais tu n'es plus un bébé. Quand on a 7 ans, on a vraiment le droit d'être traité comme un grand. On devient plus raisonnable, plus responsable et plus serviable aussi.
Alors, c'est quand le vrai âge de raison où l'on devient grand comme une maman?
Tu sais, ma chérie, même quand on est vieille comme moi ou encore plus vieille comme bonne maman,
il faut toujours garder un petit grain de folie dans le coin de son esprit. Si on avait tout le temps raison,
la vie serait d'un ennui.
Alors, on poursuit par une version un petit peu plus exotique de ce passage à l'âge de raison. Et cette fois, c'est un petit enfant indien qui nous donne sa version de ce fameux rituel de passage.
C'est les 7 ans d'aigle saisissant. Au village indien, dès la tombée du jour, toutes les familles sont sorties de leur tipi. Les squaws ont mis leur robe de fête, brodée de perles et de fleurs. Les hommes se sont enduits le corps de peinture jaune, couleur de bonheur. Du four s'échappe une délicieuse odeur de pimkan, du bison séché aux airelles mijotées dans sa graisse. Tout semble prêt pour célébrer un grand événement. On n'attend plus que l'ougri, le chef du village, pour ouvrir la cérémonie. Sous les clameurs, le jeune indien victorieux s'avance au cœur du village vers le totem de l'aigle royal. Là, de nouveau, le silence se fait. Un regard de fierté vers ses parents, puis c'est à lui seul de parler. « Moi, fils de longues tresses et de loup gris, j'ai réussi le grand défi. Mais je vous apporte en plus des plumes de l'aigle royal, notre oiseau sacré. » Les visages sont stupéfaits. Mais comment a-t-il fait? Alors que la dernière lune éclairait le ciel de notre village, mon père, loup gris, me donna ses derniers conseils. Il glissa dans ma main son couteau cranté pour assurer ma sécurité et enfila autour de mon cou un collier de cailloux pour remuer ma fronde. Ma mère, longue tresse, me revêtit d'un poncho très chaud pour me protéger du froid de la nuit. Après les avoir embrassés, je me suis enfoncée dans la forêt, en direction de la vallée où nous avions déjà repéré, avec mon père, le vol de l'aigle sacré. Comme il me l'avait appris, j'ai pris la direction du nord, repérant sur le tronc des arbres des lichens et de la mousse verte. Pour me donner du courage, je répondis aux cris de l'effraie et du hibou, j'imitais les hurlements des loups, et sur la terre fraîchement retournée, j'ai découvert le passage d'un sanglier et de sa laie. Plus loin, un cerf dérangé par ma présence m'a ouvert un chemin tout tracé vers la clairière. La forêt m'était devenue tout à coup familière. Cependant, je devais continuer mon chemin, et cette fois-ci à découvert. Aussi vite que je le pus, j'ai dévalé la pente, grisé par un très fort sentiment de puissance et de liberté. Oh, j'en étais sûre, je pouvais y arriver. Il me suffisait de faire comme vous, valeureux guerriers. Il me fallait prendre au piège notre oiseau sacré. En bas, dans la vallée, sous le clair de lune, j'ai creusé un grand trou. Au petit matin, enfin, je me suis mis en quête de gibier. Un lièvre pointa ses oreilles près de son gîte. Je l'ai visé avec ma fronde et je l'ai tué. Alors je me suis cachée dans la fosse. Je l'ai recouverte de mon pocho, puis de mousse et de brindilles, et j'ai posé le lièvre dessus. Puis j'ai attendu. Je n'avais eu aussi peur. Le cougar ou l'ours brun affamé pouvait passer par là, se saisir du lièvre et tomber sur moi dans le piège. Sans doute m'aurait-il dévoré. Mais les esprits du village me protégeaient. À l'affût, sous mon vêtement, j'ouvrais grand mes yeux remplis de sommeil et, enfin, j'ai aperçu l'aigle royal. Il tournoyait lentement dans le ciel, puis il a entamé sa descente et s'est approché au-dessus de moi. Soudain, il s'est posé près du lièvre. C'est à ce moment-là que je l'ai saisi par la queue. Il s'est envolé furieux, tenant dans ses serres mon lièvre, mais moi j'avais réussi, je tenais dans ma main les plumes que voici. Sous les acclamations, le fils de Longue Tresse et de Loup Gris tend son trésor au sorcier. « Fils de Longue Tresse et de Loup Gris, désormais tu t'appelleras Aigle Saisissant. Seuls les braves ayant réussi un exploit ont le droit de porter dans leurs cheveux les plumes sacrées, et toi, tu l'as mérité. » Sous les hurlements de joie, Tonnerre dans la montagne fixe sur la tête du jeune Indien sa première plume de feu qu'il arbore fièrement. Alors, tous ses amis admiratifs déposent à ses pieds les cadeaux de l'amitié. Des mocassins brodés, un carquois, un cerceau de bois, des osselets gravés. Sans oublier le plus beau des présents, une ceinture frangée, offerte par son amie, la jolie natte fleurie. Aigle Saisissant, épuisé, affamé, comblé, rejoint ses parents pour une fête sous le ciel étoilé. Loup Gris et Longue Tresse ont eux aussi un cadeau. Aigle Saisissant, quel nom splendide pour le fils d'un chef, tu nous combles de bonheur. D'un signe entendu, Longue Tresse est allée chercher un arc, tout neuf, le premier, celui dont on ne peut se servir qu'après avoir enduré l'épreuve des 7 ans, celui qui révèle l'âge de raison. Demain, Loup Gris montera à Aigle Saisissant comment tirer ses premières flèches. Mais ce soir, au son des tambours, le village indien chante et danse jusqu'au lever du jour. Aigle Saisissant fête ses 7 printemps. Il est grand maintenant.
Tout de suite, nous allons découvrir l'histoire de Gaëtan, et lui aussi va avoir 7 ans.
Oui, lui aussi a un anniversaire, et alors là, c'est avec ses grands-parents qu'il a cette histoire. Chaque année, au moment de son anniversaire, Gaëtan est ennuyé, à cause de mamie. Comme tout le monde, bien sûr, il a hâte de faire la fête. Comme tout le monde, il adore souffler les bougies et recevoir des cadeaux. Sauf que, pour Gaëtan, chaque année, il y a un problème avec mamie. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, au contraire, sa grand-mère est extrêmement gentille et il adore passer les vacances d'été chez elle et son grand-père à la campagne. Mais chaque fois qu'elle vient pour son anniversaire, mamie lui offre des cadeaux vraiment nuls. Il faut dire que c'est un peu la faute de grand-père. Il est assez malade et a beaucoup de mal à marcher, alors il reste dans sa maison à la campagne. Grand-père aime beaucoup sa maison. C'est déjà là qu'il habitait avec ses parents quand il était petit garçon. Et c'est lui qui choisit dans ses vieux jouets ceux qu'il veut offrir à Gaëtan. Un train électrique qui fait un bruit de casserole pour ses 4 ans, des soldats de plomb pour ses 5 ans, un casque de soldat tout rouillé pour ses 6 ans. Gaëtan aime bien s'amuser avec tous ces trucs bizarres dans le grenier de ses grands-parents quand il va chez eux. Mais dans sa chambre, il les trouve aussi vraiment moches. En fait, chaque année, il est obligé de faire croire qu'il est content. Et maintenant qu'il va avoir 7 ans, Gaëtan se dit que ce n'est pas juste. Parce que le jour de son anniversaire devait être vraiment un jour de fête. Enfin, ce soir-là, les choses commencent pas très bien. Enfin, si, peut-être que si, finalement. Elles vont commencer très bien. Papa et maman lui ont offert toute une panoplie de détectives. Une loupe très puissante, une perruque et des lunettes pour ne pas être reconnue, des menottes, une lampe de poche, un pistolet en plastique parfaitement ressemblant, et même un carnet pour noter les noms des suspects. Maman dit, « Maintenant que tu sais écrire, tu vas pouvoir t'en servir. » Sur la table, il reste le cadeau de mamie et grand-père. C'est un objet rectangulaire d'assez petite taille. Gaëtan se demande ce que ce sera cette fois. Il défait le paquet et il se retrouve devant un livre gris, pas très beau. Il l'ouvre. Sur la première page, il est écrit « Des aventures de pirates ». Gaëtan le feuillette à toute vitesse et il dit « Mais il n'y a pas d'image ! Sur toutes les pages, il y a des lignes et des lignes, toutes petites et toutes noires. » Mamie le regarde et dit, « Maintenant que tu sais lire, je pense que ce livre va t'être très utile. C'était le préféré de ton grand-père. Et il a dit qu'il fallait te l'offrir maintenant que tu as l'âge de raison. » Gaëtan se dit tout bas, « Tu parles d'un cadeau. Comment grand-père peut-il me faire ce coup-là ? Mais comment ?» Et comme mamie lui fait un grand sourire, Gaëtan lui sourit aussi, même s'il a une grosse boule dans la gorge. La nuit, dans son lit, Gaëtan joue avec sa lampe de poche. Elle fait un rayon très fin qui projette un rond jaune sur le mur, sur son lit et même sur le plafond. Il y a un petit bouton sur le côté pour la faire clignoter. Ça, c'est un vrai cadeau, pas comme ce petit livre gris. Gaëtan prend le livre et le secoue dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là ? « Oh, je ne le lirai pas avant, mais 10 ans au moins !» Mais à cet instant, une petite feuille pliée en 8 glisse du livre et tombe sur son lit. Gaëtan sent son cœur se mettre à battre. Il déplie le papier. Dessus, quelqu'un a écrit en grosses lettres avec une encre bleue. Il lit lentement. « Tu devrais regarder le fusil des soldats !» Sans un bruit, Gaëtan descend de son lit et prend son tabouret pour atteindre le haut du placard, là où il a rangé la boîte des soldats de plomb. Il les prend et les regarde un par un, sa lampe dans sa main et la grosse loupe à quelques centimètres de son œil. Au troisième soldat, il remarque, juste sous le fusil, un truc bizarre. Il commence à tourner l'arme et il s'aperçoit qu'elle pivote. Gaëtan voit une cachette, se dévisse lentement, lentement. Dedans, il y a une feuille de papier. Avec la même encre bleue, quelqu'un a écrit « Va voir au fond du casque ». Cette fois, c'est sûr. Gaëtan est sur la piste d'un trésor. Il continue de marcher dans sa chambre sur la pointe des pieds en essayant de ne rien cogner dans le noir. Il trouve au fond de l'armoire le casque qu'il ne met jamais. Il le tourne, le retourne. Sur un côté, il remarque qu'il y a comme un petit trou. Il glisse les doigts, puis la main, et il trouve encore une feuille de papier. Dessus, avec la même écriture, quelqu'un a inscrit « Le trésor est dans le train ». Cette fois, Gaëtan ne fait même plus attention au bruit. Il se précipite, tire son coffre à jouets, et tout au fond, il récupère les 2 wagons et la vieille locomotive. Il les éclaire, les scrute à la loupe, les secoue. Avec un petit tournevis, il ouvre le premier wagon. Dedans, il y a 2 énormes pièces en or, on dirait. Vite, vite, il ouvre le 2e wagon. Quand le fond cède, tout d'un coup, une 10aine de billes tombent par terre. De très belles, des calots, œil de bœuf, ceux qui valent 25 billes dans la cour de récré. Il n'en avait qu'un, et ils sont très rares. Gaëtan a les mains qui tremblent, et il sent que sur ses joues, ça devient rouge, tellement elle brûle. Que va-t-il trouver dans la locomotive ? Il approche le tournevis, fait lentement tourner la petite vis. La plaque en fer s'ouvre et un minuscule rouleau de papier jaune entouré d'un fil tombe sous le lit. À 4 pattes, Gaëtan se met à chercher, retrouve le petit rouleau. Dessus, il est écrit à l'encre bleue. « Mon petit-fils, bravo, tu as trouvé le premier trésor. Tu es un bon détective, mais tu devrais commencer de lire le livre des pirates. Quand j'étais enfant, comme toi, J'ai lu chaque histoire de trésor et à partir de ces aventures, j'ai inventé des cachettes dans toute la maison, dans le grenier et dans mon jardin, chez nous. Il y a des secrets partout. Ta grand-mère et moi, on t'aidera un peu. Mais je crois bien que tu en as eu pour tes années de recherche à venir nous voir chaque été. C'est mon cadeau. Bon anniversaire, ton grand-père. Le lendemain, dans la cuisine, Gaëtan attend, en buvant son chocolat, que mamie se réveille. Dans sa poche, il y a 2 pièces en or qu'il va montrer à ses copains et 3 gros calots bleus. Les autres, il les a rangés dans la cachette secrète du train. Il a remis en place le fusil du chocolat et alors, le petit soldat, comme ça, est avec son fusil avec à nouveau ses secrets. Tout est apparemment normal. Dans son cartable, il y a aussi le livre gris au trésor, bourré de mystères. Quand mamie apparaît enfin en robe de chambre, elle lui sourit depuis la porte et demande « Tu as bien dormi, Gaëtan ?» Il secoue la tête pour dire « Oui ?» Et il dit « Oh, je pense que je vais passer de bonnes vacances chez vous cet été !» Elle cligne de l'œil. « Tiens, tiens, je connais un jeune homme qui a lu en cachette hier soir. » Et ils éclatent de rire tous les deux. Maman et papa les regardent, eux, par contre, sans comprendre.
Place à la poésie tout de suite, Dominique. Et il y a bien sûr une morale derrière tout ça.
Oui, là toujours... Alors, mon écrivain préféré, Florian, hein, Jean-Pierre Clarisse de Florian, que j'ai beaucoup déjà lu, mais que j'aime bien. C'est mon La Fontaine à moi. Voilà. Oui, des histoires là, par contre, effectivement, pour dire que bah, il faut savoir voir les choses sous différents angles, en fait, parce que souvent dans la vie, on ne voit que ce que l'on veut voir. Et là, ça prouve qu'effectivement, il faut avoir les yeux un peu plus ouverts que cela. Le rossignol et le prince. Un jeune prince, avec son gouverneur, se promenait dans un bocage et s'ennuyait suivant l'usage. C'est le profil de la grandeur. Un rossignol le chantait sous le feuillage. Le prince l'aperçoit et le trouve charmant. Et, comme il est prince, il veut dans le moment l'attraper, le mettre en cage. Mais pour le prendre, il fait du bruit et l'oiseau fuit. « Pourquoi donc ?» dit alors son astèle en colère. « Le plus aimable des oiseaux se tient-il dans les bois, farouche et solitaire ?» Tandis que mon palais est rempli de moineaux. C'est, lui dit le mentor, afin de vous instruire de ce qu'un jour vous devez éprouver. Les sots savent tous se produire. Le mérite se cache. Il faut l'aller trouver. La seconde, c'est l'habit d'Arlequin. Vous connaissez ce qu'est nommé de la ferraille, où l'on vend des oiseaux, des hommes et des fleurs. À mes fables, souvent, c'est là que je travaille. J'y vois des animaux et j'observe leurs mœurs. Un jour de mardi gras, j'étais à la fenêtre d'un oiseleur de mes amis, quand sur le quai je vis paraître un petit arlequin leste, bien fait, bien mis, qui, la batte à la main d'une grâce légère, courait après un masque en habit de bergère. Le peuple applaudissait par des ris, par des cris. Tout près de moi, dans une cage, 3 oiseaux étrangers de différents plumages, perruche, cardinal, serin, regardaient aussi l'arlequin. La perruche disait... J'aime peu son visage, mais son charmant habit n'eut jamais son égal. Il est d'un si beau vert. Vert ? Dit le cardinal. Vous n'y voyez donc pas, ma chère. L'habit est rouge, assurément. Voilà ce qui le rend charmant. Oh, pour celui-là, mon compère, répondit le serin, vous n'avez pas raison, car l'habit est jaune citron. Et c'est ce jaune-là qui fait tout son mérite. « Il est vert, il est jaune, il est rouge, morbleu !» interrompt chacun avec feu. Et déjà, le trio s'irrite. « Amis, apaisez-vous. Leur crie un bon pivert, l'habit est jaune, rouge et vert. Cela vous rend sûrement fort. Voici tout le mystère. Ainsi que bien des gens d'esprit et de savoir, mais qui d'un seul côté regardent une affaire, chacun de vous ne veut y voir que la couleur qui sait lui plaire.
« Agathe, ce conte-là est adapté d'un conte allemand. Le titre est « Le prince soleil ». Il était une fois, au cœur d'une haute chaîne de montagnes, une vallée si profonde que le soleil n'arrivait jamais à y descendre. Au cœur de cette vallée se trouvait un village et, au cœur de ce village, un chalet où vivait un paysan, sa fille et ses trois fils. Tandis que les garçons aidaient le père aux travaux des champs, la jeune fille devait s'occuper des poules, des moutons, de la cuisine, du ménage, de la couture et du repassage. Un jour, le paysan trouva à sa fille un fiancé. Il était solide, riche et vaillant, mais elle refusa de l'épouser. « Que te faut-il ? Un prince charmant ? » demanda le père mécontent. « C'est le prince soleil que j'attends, » répondit la fille en souriant. Le soleil l'entendit. La jeune fille était si jolie qu'il se dit « Oh, il faut que je luise comme jamais je n'ai encore lui. » Et il s'efforça de briller le plus possible. Il brilla si fort que ses rayons réussirent à pénétrer au plus profond de la vallée jusqu'au petit chalet. En cascadant le long des pentes, il fit fondre la neige et fleurir les plantes. Une tornade de lumière pénétra par la cheminée du chalet. Ses reflets rouges et dorés zigzaguèrent sur le parquet. Enfin, le soleil se transforma en prince et prit la jeune fille par la main pour l'entraîner dans une danse sans fin. Ils dansèrent, tourbillonnèrent. La nuit vint et sembla danser avec eux. Au petit matin, le ciel était devenu tout gris et plat. Le prince soleil était parti et la jeune fille avec lui. Le père se désola. « Hélas ! Le soleil m'a enlevé ma fille unique adorée. Qui va désormais nous faire à manger, faire nos lits, balayer le parquet ?» Puis il ajouta. « Il me reste heureusement mes trois garçons. Je suis sûre qu'ils m'aideront à la ramener à la maison. » L'aîné des garçons prit un cheval à l'écurie et s'en alla droit vers l'ouest, là où se couche le soleil. Après avoir traversé bien des montagnes et des vallées, il arriva au pied d'un château. Il cria très fort et très haut. « Prince soleil, je sais que tu es là !» « Montre-toi, même si tu es en chemise de nuit !» Dérangé dans son sommeil, le soleil ouvrit ses volets. Auprès de lui était sa bien-aimée. Elle reconnut son frère aîné et lui envoya des baisers. Mais le frère ne se laissa pas impressionner. Il cria « Soleil, puisque tu es grand seigneur, montre-nous que tu as bon cœur. Rends-nous notre sœur pour quelques jours et nous la dorloterons dans notre chalet comme jamais nous l'avons dorlotée. » Le prince soleil répondit d'un ton courtois. « Soit, mais auparavant, tu devras prouver que tu sauras t'en occuper. Chez vous, elle gardait les moutons assez loin de la maison et vous étiez toujours prêt à la gronder quand, par malheur, un agneau s'égarait. Voyons de quoi tu es capable. Sors mes bêtes de l'étable et mène-les au pâturage. Et gare à toi si l'une d'entre elles s'échappe. » Le jeune homme fit ce qu'on lui demandait. Vers midi, dans le pré, il se sentit plein d'appétit. Il abandonna un instant les moutons pour aller cueillir quelques champignons. Puis il fit un feu afin de les griller. Et alors, après s'être bien régalé, il se mit à recompter ses animaux dans le pré. Corneboeuf ! Il s'aperçut avec effroi qu'il en manquait trois. Il éboulait partout, il ne les trouva pas. Alors il entra tout penaud au château. Le prince soleil secoua la tête. Comment pourrais-je confier ma bien-aimée à un garçon aussi étourdi ? Et le frère aîné fut obligé de rentrer chez lui. Dans le chalet, le désordre s'était installé. La pile de vaisselle sale augmentait de jour en jour. « Oh, ma petite fille, quand pourrais-je la retrouver ?» gémissait le père. Alors, le frère cadet prit son mulet et partit à son tour vers l'ouest. Quand il arriva au château, tout était plongé dans le sommeil. Alors il cria « Prince soleil, je sais que tu es là. Montre-toi, même si tu es en chemise de nuit. » Le soleil ouvrit ses volets. Auprès de lui était sa bien-aimée. Elle reconnut son frère cadet et lui envoya des baisers. Mais le frère ne se laissa pas impressionner. Il hurla « Soleil, si tu es grand seigneur, montre-nous que tu as bon cœur. Rends-nous notre sœur pour quelques jours et nous la dorloterons dans notre chalet comme jamais nous l'avons dorlotée. » Le soleil, qui n'avait pas changé d'avis, lui demanda d'aller à son tour garder ses troupeaux dans un pâturage. Oh, le jeune homme accepta. Le temps passa. Les moutons le conduisirent près d'un torrent tumultueux. Un agneau tomba dans l'eau et le courant l'emporta aussitôt. « Bah !» se dit le garçon. « Pouf ! Un agneau de plus ou de moins, le soleil n'y verra rien. » Mais le soir, lorsqu'il se présenta au château, le prince reconta son troupeau et l'agneau manquant. Le jeune homme lui expliqua que la bête s'était noyée et qu'il n'avait rien pu y faire. « Comment pourrais-je te confier, ma bien-aimée, si tu es capable de la laisser se noyer ? » se fâcha le soleil. Aussi, le frère cadet rentra-t-il chez lui. Des vêtements jonchaient les lits. L'évier croulait sous la vaisselle et les ordures débordaient des poubelles. Ce fut au tour du plus jeune des frères de tenter sa chance. Il marcha jusqu'au lever du jour et cria au maître des lieux d'un ton furieux.
« Prince Soleil, si tu es là, eh bien montre-toi, même si tu es en chemise de nuit. »
Le soleil ouvrit ses volets. Auprès de lui, sa bien-aimée rayonnait de joie et de santé. Le jeune homme cria à nouveau.
« Soleil, si tu es grand seigneur, montre-nous que tu as bon cœur. Rends-nous notre sœur pour quelques jours et nous la dorloterons dans notre chalet comme jamais nous ne l'avons dorlotée. »
Le soleil promit d'accepter à condition que le garçon amena ses moutons au pré. Et le plus jeune des frères partit sans se faire prier. Au bout d'un moment, il arriva au bord du torrent, dans lequel, horreur, tous les moutons bondirent. Alors effrayé, le garçon décida à plonger afin de les rattraper. Il réussit à s'accrocher aux cornes d'un puissant bélier qui le traîna sur l'autre bord. C'est alors que le jeune berger vit une grande bâtisse de pierre couverte de feuilles de lierre. Il y pénétra avec les animaux qui se transformèrent tous aussitôt en chevaliers.
« Viens nous servir, berger !» lui demandèrent.
Bon, le garçon, tu leur feras manger, mettre la table, porter à boire, débarrasser, laver, ranger, balayer, oh, et à toute allure.
Car il le faisait presser. Le repas terminé, les chevaliers se changèrent en moutons et voulurent rentrer. Le garçon traversa à nouveau le torrent, accroché au bélier, et lorsqu'il arriva au château, il était si hagard et si las qu'il entendit à peine le soleil s'écrier.
« Tu t'es bien comporté, mon garçon. Je te confie ma bien-aimée pour quelques jours, à condition que ton père, tes deux frères et toi promettiez de vous en occuper comme tu l'as fait pour ces chevaliers. »
Dès le lendemain matin, le jeune homme reprit le chemin de sa vallée en portant sa sœur sur son dos comme il l'avait jamais portée. En arrivant dans le chalet, la jeune fille le trouva rangé, lavé, époussé, astiqué, comme il ne l'avait jamais été. Son père et ses deux frères avaient eu le temps de méditer sur l'aventure. Quand le plus jeune des garçons déposa sa sœur sur le seuil de la maison, alors roulèrent rires et chansons. Ce fut la fête, et jusqu'au lendemain. Le soleil ne manqua pas de briller pour fêter cette belle journée, et il permit que, chaque année, pour quelques jours, la famille pût se retrouver. Les noces du soleil. Il était une fois dans l'ancien Japon une jeune fille d'une très grande beauté et qui avait pour nom Samamuni. Elle vivait avec sa mère et ses tantes dans un superbe palais. Son père, l'illustre samouraï Shoki, était mort à la guerre. Bien qu'elle fût en âge de se marier, Samamuni n'accordait jamais un regard au garçon qui la courtisait. Elle passait la majeure partie de ses journées seule, dans les jardins du palais, où elle contemplait le soleil. Le soir, avant qu'il ne disparaisse à l'horizon, elle montait à la plus haute tour pour le regarder briller encore et encore. Car aussi insensé que cela puisse paraître, Samamuni était amoureuse du soleil. Elle l'aimait d'une vraie passion qui lui dévorait le cœur. Un jour, sa mère et ses tantes vinrent la trouver pour lui expliquer qu'il était temps pour elle de se marier. Quelle ne fut pas leur surprise quand Samamuni leur répondit « Je veux épouser le soleil !» Elles entrèrent dans une grande colère. « Tu dois ôter cette folie de ta tête. Une jeune fille n'épouse pas le soleil. Tu n'es qu'une orgueilleuse. » Mais Samamuni continua à l'aimer de toute la passion de son jeune cœur. Elle l'aima avec tant de force que l'astre du jour, ému par ses appels, lui envoya un messager. Alors que la jeune fille se brûlait les yeux à scruter le ciel immobile, il se présenta à elle dans les jardins même du palais, tel un samouraï chevauchant un rayon de lumière. Il s'inclina respectueusement et lui dit « Mon maître est très touché par ton amour. Il veillera sur toi tout au long de ta vie. Mais la fille d'un humain ne peut épouser un astre du ciel. Oublie cette folie. » Alors Samamuni devint très triste. Elle perdit l'appétit et décida qu'elle ne se marierait jamais. Tant d'obstination redoubla la colère de sa mère qui l'enferma dans un cachot. Mais Samamuni ne changea pas d'avis. La cellule humide, la solitude, les privations ne pouvaient rien contre son amour. Malgré toutes les tentatives de sa mère et de ses tantes à lui faire entendre raison, elle continuait à clamer qu'elle ne changerait jamais d'avis. Elle épouserait le soleil et personne d'autre. Dans le ciel, Le soleil ressentait beaucoup de peine à la voir ainsi se laisser mourir. Mais comment exaucer son rêve insensé? Lorsqu'on est fille d'humain, on n'épouse pas le soleil. Il en est ainsi, il en sera toujours ainsi. Pourtant, oh, il souhaitait faire quelque chose pour elle. Il concentra toute la force de ses rayons, et sa grande sagesse illumina bientôt son esprit. Une nouvelle fois, il envoya son messager auprès de sa mamounie. La jeune fille était allongée sur sa couche, pensant qu'elle ne reverrait jamais son amour. Elle se désespérait chaque jour un peu plus. Lorsqu'elle vit un trait de lumière s'introduire par l'étroite lucarne du cachot, le trait de lumière presque aveuglant se transforma en messager, celui-là même qu'elle avait rencontré il y a quelque temps dans les jardins du palais. « Tu peux te réjouir, » lui annonça le messager. « La force de ton amour a réussi à émouvoir mon seigneur. Il t'épousera sous la forme d'un jeune garçon si tu parviens à le reconnaître parmi tes prétendants. » Folle de joie, sa mamounie fit aussitôt appeler sa mère et accepta de rompre sa solitude. À compter de ce jour, elle se mit enfin à rire et à jouer avec les adolescents de son âge. Le temps passa, et lors d'une réception organisée en l'honneur de ses 18 ans, à la saison où tous les abricotiers se couvrent de neige, elle aperçut parmi tous ses invités un jeune samouraï. Il était si beau, si fort, et d'un visage si lumineux qu'elle reconnut en lui son chevalier promis, et fut certaine qu'il s'agissait de son amour le soleil. Sa famille était heureuse de voir sa mamounie se transformer par le bonheur que lui apportait ce charmant et si particulier samouraï. On organisa alors un mariage somptueux, empli de joie et de rire. Tout ceci sous le regard bienveillant d'un magnifique soleil ardent.
Qu'en penses-tu, Agathe? J'espère que ces deux dernières histoires de soleil t'ont mis en joie.
Oui, merci beaucoup Dominique pour ce rayon de soleil dans la grisaille de ce lundi d'octobre.
On aime vraiment, vraiment cette émission et on a vraiment envie de faire plaisir donc à nos auditeurs.
En tout cas, merci Dominique. On est comme tous les lundis ravis de partager ce beau moment avec toi. Et on te retrouve, bien sûr, dans 15 jours.
Avec grand plaisir.